Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Funky Fab.
Hello.
Salut, tu vas bien?
Ça va et toi? J'aime bien ton intro, elle est chouette.
Merci beaucoup, ravi qu'elle t'ait plu. Ouais, ça fait un petit moment que je fais le podcast et j'avais trouvé ça au départ. Et c'est vrai que c'est comme ça que je le vois. Moi, c'est en galérant qu'on devient humoriste parce que punaise, c'est dur, quoi.
Écoute,
c'est
beaucoup de galère. Il y a rien, je trouve, qui résume mieux que cette phrase notre métier, quoi. En forgeant qu'on devient forgeron, en galérant qu'on devient humoriste, quoi. C'est un passage obligé, au fait. Hein. La galère, t'es obligé de bider. Hein.
Totalement, totalement.
T'es obligé de passer par là et ça peut te faire que du bien, en fait.
Mmh. Ah oui, non, mais ça forge. Hein. C'est pour ça que vraiment, quand tu vois quelqu'un qui est passé par plusieurs années de galère et de bide et tout, en général, c'est les personnes les plus fortes parce qu'elles sont passées par la difficulté et aujourd'hui, elles sont armées pour affronter tout type de public, tout type d'ambiance. Elles peuvent défendre n'importe quel texte, tu vois, voilà.
C'est clair.
On en aura encore des galères, hein. Ça c'est la bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle pour mon podcast.
Ça c'est sûr, là t'as un puits sans fond, de tu tiens du contenu, mais pour 10 générations là.
Ouais c'est ça, si jamais un jour vous entendez qu'il n'y a plus personne qui a d'anecdotes, ce sera une très mauvaise nouvelle pour le podcast, mais pour le moment D'accord. J'ai l'impression qu'il peut durer encore longtemps.
C'est clair.
En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
Bah écoute, avec plaisir.
Le plaisir est partagé. Et donc, tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter?
Moi, le beat, c'est un peu mon fond de commerce. Hein. C'est là-dessus que j'ai bâti mon incroyable carrière. Comme tout le monde, j'ai des anecdotes de beat, ça c'est clair. Mais ça va crescendo, quoi, tu vois. Et bon, je veux pas me vanter, mais je pense que j'ai eu le summum du beat, en fait. Tu peux pas plus, au fait, dans le... Après ça, c'est meurtre et c'est prison et c'est, tu vois, il y en a deux que je me souviens dans ma carrière. Le premier, tu sais, j'étais un bébé de l'humour, quoi. J'avais fait le concours Next Prince of Comedy, j'avais fait 3-4 scènes dans ma vie. Les 4 scènes, dans la moitié de la salle, il y avait mes potes, donc tout était bienveillant, tout était gentil, tout était truc. Et puis on m'appelle, on me dit, ouais, voilà Fab, j'ai une bonne nouvelle pour toi, on voit que ça marche bien et tout. Semaine prochaine, tu fais la première partie d'Alex Vizorek, Lola Magna, 800 personnes. Je dis, ah, quoi t'sais, tu te chies dessus parce que tu es au stade, au fait, où Alex, déjà à l'époque, il pesait. Son nom était quand même. C'est pas faire. Je veux dire, c'est tu fais la première partie d'un grand, en fait, d'un grand du métier, d'un gars que tu regardais un mois avant. Dans un fauteuil dans la salle, et là on te dit tu vas partager la scène avec lui. Et donc moi j'étais au stade, tu sais, où je pense que tous les humoristes ont ça au début, quand tu essaies juste de retenir ton texte, que ta plus grande crainte c'est de perdre ton texte.
Oui.
Et puis dire voilà, j'ai écrit une demi-heure, mais au fait je me rends compte qu'en le jouant il me reste 3 minutes 22 de drôle, donc je dois balancer ces 26 minutes qui me restent, que j'ai mis 24 jours à écrire. Mais c'est pas grave, j'y crois, j'aime ce que je fais. Et donc, du coup, moi, j'avais genre 15 minutes à tout casser, tu vois.
Ouais,
et sur ces 15, donc, j'arrive et puis je vais voir Alex Vizorek dans la loge. Et salut, ça va? Ouais, et toi? Ouais. Hey, de quoi tu vas nous parler ce soir? Alors, moi, j'ai un humour trash, tu vois, mais très trash. Et au début, ça aussi, c'était un truc qui a fait que c'est que j'ai mis longtemps à l'assumer. Et en fait, l'humour, tu dois déjà l'assumer à 100%. Mais quand tu fais du trash, tu dois l'assumer 10 fois plus que les autres parce que tu dois dire au public « Hey, je ne suis pas un monstre. Vous allez voir, c'est drôle. Venez, j'ai un plan. Suivez-moi, tu vois. Non, mais je vous raconte des trucs horribles comme ça, mais vous allez voir, c'est drôle. » Et moi, j'assumais qu'à moitié ce que je disais. En le disant, je me disais « Est-ce que je ne les ai pas choqués ?» Tu vois, et là, le public, il ne croit pas. Et donc, il y a un malaise, mais j'ai mis longtemps à le comprendre. Enfin, bref. Et donc, j'arrive dans la loge d'Alex Vizorek et il me dit « Tu vas parler de quoi ?» Je dis « Écoute, j'ai parlé j'ai des vannes sur Justine Hénin, je joue au tennis belge, sur des enfants défavorisés dans les pays pauvres. » sur le fait qu'il bouffe pas, ouais, j'ai du trash, tu vas voir, ça va être drôle. Mmh. Et je le vois devenir blanc, en fait, et se décomposer. Il me dit, écoute, Fab, non, ça, c'est pas possible, tu peux pas faire ça. Je dis, pourquoi ? Mais parce que Justine Hénin est dans la salle, c'est la marraine de l'événement. Et parce que justement, on récolte des fonds pour les enfants défavorisés des pays pauvres. Donc tu ne peux pas. C'est une soirée caritative organisée par le Rotary Club. Il y a 800 personnes. Et il te dit ça 10 minutes avant de monter sur scène, tu vois. Ah. Et donc, moi, je dois piocher dans. Je devais faire un 10 minutes et je dois enlever 10 minutes de mon 10 minutes, tu vois. Voilà. Et donc, je me dis, oh, mais qu'est-ce que je vais faire ? Et après, tu sais, avant de monter sur scène, je commence à stresser. Et je me rends compte qu'au fait, il n'y a personne qui m'attend, moi. J'entends les organisateurs parler. Il n'y a personne qui soucie que je sois dans les coulisses. Et ils sont tous là à se demander, mais tiens, il est où Cody ? C'est quand même lui qui fait la première partie d'Alex. Il est où Cody ? À quelle heure il arrive, Cody ? Et puis, tu sais, moi, je me dis, mais il y a un truc qui ne va pas ici. Il y a un truc qui ne va pas, ce n'est pas possible. Et donc, la soirée commence, la meuf, elle présente. Voilà, spectacle d'Alex Zorek, merci d'être là. Soyez généreux, vous êtes tous vieux, riches et donc donnez beaucoup d'argent. Et, et tout de suite, en première partie, mesdames et messieurs, c'est Cody ! Et tu sais, Cody, les gens le connaissaient. Cody, il est connu. Et donc, et puis surtout, il est black et moi pas, tu vois. Et donc, les gens commencent à applaudir. Mais vraiment, et moi, je rentre à ce moment-là sur scène. Et là, il y a vraiment un arrêt d'applaudissements net. Et même le mec, il coupe la musique sans que je lui demande. Et donc, je dois faire les 20 derniers mètres dans le silence le plus absolu pour aller vers le micro. Tu vois, et je vois dans la tête des gens, c'est pas Cody. Et j'entends, non, c'est pas lui, Cody. Mais qui c'est ? Mais c'est pas Cody. Et là, je commence à jouer. Il y avait 800 personnes, 797 du public, ouais. 3. C'était des amis à moi qui étaient venus avec moi.
Les trois amis n'ont pas pu couvrir le silence des 797 autres, quoi.
C'est les seuls trois que j'ai entendu rire.
Oh là là.
Mais pas rire de mes vannes, rire de mon malaise. C'était trois potes d'enfance qui te connaissent depuis que t'as 7 ans, qui te suivent dans toutes tes galères. Et j'entends les rires gênés, mais en même temps, ils se fait défoncer, tu vois. Et oui, parce que j'ai commencé à parler fatalement. Et donc, j'ai la première vanne, où d'habitude, je sais que de mes 5 scènes que j'avais fait dans ma vie, je me dis, les gens, ils ont rigolé à cette vanne-là les 5 fois. Il n'y a pas de rire. Donc, tous mes repères s'étaient écroulés. Et donc, mélangés dans la timidité et la peur, eh bien, ça a donné un set où ça a été un tunnel de 10 minutes, quoi. De 10 minutes avec juste des rires gênés de tes meilleurs amis. Et puis, donc, je me souviens avoir dit, voilà, c'est tout pour moi. Désolé, Alex. et ça, c'était juste la version gentille, la version soft. Mon pire bide de scène, Sofiane, ça c'est un truc. Uh-huh.
Si je peux me permettre, déjà, on est sur du haut niveau là.
Ça c'est du gentil. Non, moi le truc d'après, alors ça c'est. Je te jure que j'ai failli arrêter en plus après ça.
Ils avaient proposé de louer une salle de cinéma, un Kinépolis, pour montrer qu'il était possible de faire autre chose que du cinéma dans une salle. Donc ils voulaient mettre en avant le spectacle vivant. Et donc, c'était une soirée qui était organisée par le Kinépolis. Il y avait tous les sponsors, les gens qui sont derrière, donc une salle de 300 personnes pleine. Et donc, ils voulaient montrer trois styles d'humour différents. Donc, il y avait Cody, Freddy Tougo et moi.
Il y avait Cody. La première fois, on nous avait promis Cody aussi, donc fais attention.
Là, il était vraiment là. Il était là en personne physique. Je l'ai vu, donc tout était bien. Il y avait Freddy qui lui était là, tout était bien aussi. Et
est-ce donc, que Cody n'a pas débarqué en disant « Excuse-moi, mais il paraît que tu as bidé en mon nom en première partie d'Alex Vizorek ?»
Non, t'inquiète, c'est, il l'a bien pris et ça allait. Mais donc moi, je suis là, je vois que ça se passe bien pour tout le monde. Cody chauffe un peu la salle, il débute, Freddy Tougo monte, il fait un carton. Moi, je passe après Freddy et Cody doit clôturer. Et donc... j'arrive, ça faisait pas hyper longtemps non plus que je faisais de l'humour, mais j'assumais pas encore cet humour trash. Et je commence, je fais mon set, et la fameuse vanne sur Justine Hénin, évidemment. Oui. Tu vois, donc moi j'ai une vanne, au fait, je dis, à Belgique, elle est connue dans le monde entier, mais pourquoi, à votre avis ? Et là, tu sais, les gens, généralement, j'ai les trois mêmes réponses qui viennent, c'est Ouais, la bière, ouais, les frites, ouais. Non, la bière, le chocolat et du trou.
Ah oui.
Une fois que le nom de la bête est lâché, tu te dis, quoi que tu puisses dire derrière ça, au fait, il n'y a pas pire. Tu vois, ils ont dit du trou, ils ont dit le pire, donc je peux y aller, tu vois. Et je dis, non, on est connus parce qu'on a les deux joueuses de tennis le plus moche de l'histoire du tennis, au fait. Tu vois, ce qui n'est pas totalement faux. Après, moi, je me permets de dire ça parce que j'ai grandi, moi, dans le milieu du tennis, parce que mon frère est un sportif, moi, pas du tout, mais mon frère, il a été dans numéro un belge pendant des années, tu vois. Donc, moi, j'ai grandi et cette vanne, elle m'est venue parce que tout le monde parlait de Justine Hénin ici en Belgique. Tout le monde. Et donc, moi, j'ai entendu parler de Justine Hénin, mais toute ma vie. Et tous disaient la même chose. C'est des bêtes, hein, Justine et Kim. Ah, c'est des bêtes, elles sont trop fortes, c'est les meilleures. Mais qu'est-ce qu'elles sont moches.
Et donc, c'est tellement méchant de la part des gens. Parce que toi, t'es humoriste, c'est de l'humour trash. Bon, après, on accroche ou on n'accroche pas. Mais le commun des mortels qui se permet de juger comme ça le physique, c'est vraiment dégueulasse, quoi.
Oui, mais après, elles sont arrivées à une époque derrière des Anna Kournikova et des Top Bitch, tu vois. Le raisonnement, en fait, de cette vanne, la démarche, a été de me dire, en fait, c'est triste parce que ces filles sont les meilleures joueuses de tennis au monde, mais les gens, ils retiennent que la beauté ou la non-beauté. Donc, j'en ai fait une vanne. Alors, peut-être que je ne la vendais pas bien à l'époque, quoi qu'il en soit.
Ouais, mais ton intérêt, c'était de critiquer un petit peu le patriarcat qui se trouve derrière cette critique du physique uniquement.
C'est ça que je dis dans ma vanne. Je dis que c'est triste. Ces meufs, elles ont fait elles ont tout donné dans leur vie, des sacrifices énormes. C'est devenu les meilleures joueuses tennis du monde. Et la seule chose que vous retenez, c'est elles sont moches. C'est pas juste, tu vois, la vie, elle est injuste, c'est pas cool, c'est pas normal. Donc, enfin, c'est ce que j'essaie de démontrer, mais maladroitement peut-être à l'époque. Et donc, je commence, je fais mon set, et puis il y a un groupe dans la salle, et les gens commencent, j'entends des « oh non, oh, ouh, oh non, c'est nul, oh non, pas possible, oh non, mais, oh non, ça… » Et donc, moi, tu sais, au début, j'entends ça une fois ou deux, donc… Je suis au milieu de ma vanne, je continue. Non, mais c'est un croisement entre une mycose et un poney. Enfin, je vais vous faire un dessin. Enfin, non, c'est pas possible. Ah non, mais c'est scandaleux. Ah non, mais où ? Et tu sais, là, ce groupe de 15 commence à se lever et commence à me huer. Mais donc, du coup, les 270 personnes qui restent dans la salle n'osent plus rien faire. Je voyais des gens en premier rang qui voulaient rigoler, mais qui se cachaient la bouche ou qui n'osaient plus. Donc, ils ont pris le contrôle et le pouvoir de la salle. Mais un truc de... Donc, j'essaie de me sortir de là et j'entends « Ouh, non, mais allez, non, mais c'est scandaleux, non, mais qui ferme sa gueule !» Et j'entends des trucs comme ça.
L'agressivité, quoi.
Ah ouais, donc je sors du Justine Hénin machin. T'as de mauvaise idée de ma part, j'enchaîne sur des vannes sur Grégory Le Marchal. et je vais sur ce que j'ai, tu vois. Et en fait, ça devient une escalade. Les gens crient plus fort que moi. Et ça devient « Ouh, mais qui ferme sa gueule ? Non, mais c'est pas possible. Mais c'est un scandale. Mais d'où il vient, lui ? Mais coupez-lui son micro. Mais qu'on arrête ce type. Mais qu'on lui coupe ce micro. Oui, coupez son micro. Mais qu'on l'arrête. Mais qu'il se taise. » Et ça gueule dans tous les sens. Et je suis là, je suis « Ok, bon, ben vous savez quoi ? Désolé, je m'arrête ici. C'est tout pour moi. Bonne soirée. » Il y a quelqu'un qui lance un applause. Mais vous n'allez quand même pas applaudir cette merde ! Non, n'applaudissez pas, je vais y aller. Et donc, je suis sorti de la salle en mode, je vais me suicider dès que je peux. Et donc, j'étais me planquer dans les loges. Ça fait vraiment mal, quoi, tu vois. Et c'est très dur à passer. Je vois la porte qui s'ouvre, je vois la tête de Cody et de Freddy Tougo qui me regardent, qui éclatent de rire, qui viennent, qui me prennent dans leurs bras, qui me font un câlin, mais mort de rire, tu vois.
Mais c'est ça qui est bien, tu vois, dans l'humour. Voilà. On est tellement solidaire, en fait, genre, quand un pote se prend une tôle sur scène, on va rigoler, on va se foutre de sa gueule, mais on le soutient,
clair,
tu vois, quand même.
C'est clair, c'est jamais la tête de Cody qui me regardait, qui me dit, mais qu'est-ce que t'as ramassé,
ce... Ah non, mais clairement, tu t'es fait... lynchage, c'est un lynchage.
Je me suis fait lyncher, et alors, tu vois, après, il y avait un walking dinner, et notre loge, en fait, c'était pas compliqué, c'était la porte dans... Enfin, je devais sortir de la loge et je passais juste devant le walking dinner.
Donc tous les spectateurs étaient là, quoi.
Et je devais passer pour sortir, tu vois. Donc il y a Cody et les autres qui me regardent, qui me font
J'imagine, tu viens pas manger un bout après. Moi, je me barre d'ici tout de suite. Je reste pas. Non, mais t'es sûr? Mais bien sûr que je suis sûr. Tu veux qu'il y ait une bagarre générale, enfin. Ah non, c'est dommage.
J'ai juste une question. Le changement d'identité, il t'a pris longtemps ou pas?
Non, ça a été fait très vite. Les papiers, le visage, tout. Dans la semaine, c'était réglé, tu vois.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
C'était violent. Et alors, en plus, tu sors de là et il y a deux hôtesses, comme dans tous les cinémas, je pense, qui attendaient devant la porte. Uh-huh. Et il y en a une qui me dit « Vous n'allez pas manger ?» Je dis « Non, je vais m'en aller tout de suite. » Et je suis rentré chez moi, la larme à l'œil, dans la voiture. Voilà.
Oh. Franchement, oh là là. Et je comprends totalement pourquoi est-ce que tu as failli arrêter derrière ça, parce que c'est comme si les gens… Tu vois, nous, quand on monte sur scène, on cherche de l'amour, en fait. On cherche que les gens nous aiment. Et là, quand ils te traitent comme ça, surtout que là, vraiment, j'avoue que c'est la première fois qu'on me dit que carrément, genre, la foule s'est retournée contre un humoriste, genre, à lui dire ouh, et à la fin, quand on t'applaudit, dire pourquoi vous applaudissez ça, tu vois.
C'est quand même... j'ai cru qu'elles allaient me taper, en fait. J'ai cru que ces gens allaient me taper à un moment donné, tu vois.
Ben, surtout, c'était dans tes débuts, ça faisait combien de temps que tu faisais de l'humour?
Oh, ça faisait. Je sais pas, ça faisait. Peut-être un an que j'en faisais de manière plus assidue, en fait. Parce qu'au début, bon, j'ai commencé un petit peu comme tout le monde. Mais les premières années, voilà, j'avais un job sur le côté aussi, donc c'était pas très facile. J'ai une période de ma vie où j'étais un petit peu plus libre et où j'ai pu commencer à jouer beaucoup plus. Mais cette histoire-là, je m'en souviens, je crois que j'oublierai jamais, en fait. Tu fais ça parce que quelque part, oui, on cherche de l'amour, c'est pas faux, voilà.
T'as envie qu'on t'aime, tu vois, c'est est-ce que vous m'aimez, tu vois, genre si vous rigolez, c'est que vous m'aimez. Et là, en l'occurrence, c'est comme si t'avais dit on ne t'aime pas et on ne veut même plus te voir, tu vois. Donc je comprends la violence de ce que t'as vécu par là.
Là, en l'occurrence, c'est pas on t'aime pas, c'est on veut te tuer, en fait. On est au-dessus de je t'aime pas, tu vois. C'est moi, je vois un truc passer sur Facebook, j'aime, je like, j'aime pas, je continue de faire descendre et puis point barre. Je comprends pas les gens qui doivent perdre du temps à s'arrêter. Et à devoir écrire, balancer leur haine sur le truc, tu vois. J'ai vraiment du mal. Mais alors, quand ça t'arrive en live, et c'était juste 3-4 personnes qui a fédéré un petit groupe d'une quinzaine qui étaient ensemble, tu vois. Alors, si ça se trouve, ils sont potes avec Justine Hénin, ou j'en sais rien, moi. Et peut-être qu'ils ont dû se dire que c'est méchant. Mais en même temps, enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut... Je sais que la période dans laquelle on est tellement... puritaine et que tu dois faire gaffe à tout ce que tu dis parce que, oh mon Dieu, tout peut être pris de travers et tout ça. Moi, j'ai un problème, c'est que j'ai pas de filtre. Moi, je dis les choses et après, voilà. Mais si on est honnête, deux minutes, quelqu'un de moche, c'est comme quelqu'un de grand. Tu peux pas ne pas le voir ou quelqu'un de petit. Mm-hmm. Et c'est comme si tu dis à quelqu'un, sale grand, parce qu'il fait 1m90 et que tu dis, ouais, tu peux pas le traiter de grand, ça se fait pas et tout. Mais il fait 1m90, c'est un fait. Quelqu'un, tu sais, mes potes, moi, ils savent que je suis gros et je suis pas un Apollon. Je me vexe pas quand ils me le disent. Si t'es pote avec Justine Hénin et qu'on me dit, ah, t'es pote avec Justine Hénin, ouais, je joue bien, mais c'est pas la plus belle femme que j'ai vue dans ma vie, hein, on est d'accord. Ouais, non, on est d'accord, c'est vrai. Je veux dire, il y a rien de mal, c'est une constatation. Enfin, après, moi, je le prends comme ça, tu vois. C'est peut-être pas le bon truc. Et je me dis, voilà, ces gens ont peut-être été vexés, mais de quoi au final? D'un truc qu'ils savaient déjà?
Bah, je pense qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que tu n'as pas eu tu n'as pas réussi à traduire ce que tu voulais réellement dire sur scène.
Je pense,
en fait.
bien sûr, c'est clair, il y a de ça aussi. Et je me dis, c'est marrant parce que j'ai eu la même chose avec ma vanne sur Grégory Le Marchal. J'ai eu le président de l'association Grégory Le Marchal de je ne sais pas quelle ville de France. Qui a commencé à me défoncer avec des messages, mais genre, toi, il faut que tu crèves, des choses comme ça. Alors que le type, son Facebook, c'est des posts à 22h. Bonne nuit, les amis.
je vais me coucher, faites de beaux rêves, je vous aime, tu vois. Et c'est la gentillesse incarnée, mais pour quelque chose auquel ils croient, comme certainement ces gens-là, ils se veulent défenseurs de attends, on peut pas dire c'est méchant. Et le gars a été méchant, on va défendre notre ami, et du coup, on va faire quelque chose peut-être de 1000 fois pire, on va pas s'en rendre compte, et on va détruire au nom de la gentillesse ou de l'amour. Tu vois, enfin, j'en sais rien, mais je trouve ça quelque part totalement absurde.
Malheureusement, c'est souvent le cas sur Internet quand il y a des personnes qui vont insulter quelqu'un d'autre et tout, machin. Bon, ça se fait pas normalement, mais sous couvert de l'anonymat, bon là, en l'occurrence, il n'y avait pas d'anonymat, le mec, tu savais qui c'était, mais sous couvert d'anonymat, il y en a beaucoup qui vont dire des choses beaucoup plus fortes qu'il n'y paraît, tu vois. Moi, j'avais vu un truc, ils avaient fait une expérience sociale, sociologique. C'était genre, ils avaient pris des commentaires, tu vois, d'Internet, des
racistes,
commentaires YouTube.
Racistes et méchants, ils en avaient fait des panneaux, ouais. Et ils allaient dans la rue chez les gens. Ouais,
voilà.
J'ai vu ça.
T'as vu, c'est dingue quand même. Hein. Et les gens se disent, bah, ça peut pas se passer comme ça, en vrai. Et ils ont même fait plus fort que ça, parce que ça, il y a eu ça. Déjà, ça a fait un petit électrochoc. Et surtout, les gens, ils organisaient des scènes, des reconstitutions avec des acteurs qui jouaient, donc les gens savaient pas que c'était des acteurs. Ils jouaient des scènes, donc des dialogues, tout ça, de YouTube. Et des trucs vraiment violents, et les gens les regardaient, ils allaient les voir, ils leur disaient « vous pouvez pas dire ça » et tout. Et après, les personnes, elles disaient « oui, ben regardez, c'est extrait, en fait, c'est fait, c'est, cette vidéo-là, on
ah
l'a
mais
fait
c'est incroyable. Le type en question, je peux me mettre à sa place, je peux comprendre, tu vois, il défend une association, et il pense que moi, je dis du mal de Grégory Marshall, ou que, alors que c'est pas du tout le cas, tu vois, c'est pas du tout le cas, c'est pas ça, c'est moi, j'ai rien contre ce garçon, il a une histoire très émouvante, et point barre, tu vois, et voilà, c'est juste, en gros, la vanne, c'est que je dis, comme je suis gros, j'ai pas de condition physique, moi, je peux pas faire de sport, j'ai la même condition physique que Grégory de Marshall, voilà, c'est tout.
Oui, point. Donc ça va pas plus loin que, ouais, c'est une comparaison, quoi.
C'est juste, je me suis dit, à un moment donné, vu qu'il était tellement malade et qu'il avait du mal pendant la Starac et tout ça, en fait, moi, je rame autant que lui, alors que je suis en bonne santé, tu vois.
C'est plus une critique de toi qu'une critique de Grégory de Marshall, quoi.
Mais oui, c'est juste ça, c'est juste une comparaison. Donc ça a donné lieu à des il faut qu'ils crèvent, les gars. En plus, le mec, ça, j'ai pas compris, le gars de cette association, il organise des courses pour récolter des fonds pour les gens atteints de la mucoviscidose. Et j'ai envie de lui dire, t'es sûr que c'était le meilleur sport pour les gens qui ont la muco, la course à pied?
Mais c'était pas des gens atteints de mucoviscidose qui couraient, non?
Si, il y en a qui participaient. Moi, j'aurais plutôt été sur du billard, une partie de fléchette, tu vois, à la nuit du bowling, un truc comme ça. Mais la course à pied, vraiment, enfin. Et il disait, gros tas, tu t'es vu. Et en même temps, j'ai envie de dire, mais c'est tellement vrai, monsieur, c'est ce que je viens de dire. Même quelqu'un qui a la muco peut me battre. Mais voilà, et je trouvais ça, le contraste était tellement fort. Je me dis, comment tu peux être d'une gentillesse absolue dans un sens et d'une violence inouïe dans l'autre. Enfin, moi, j'essaie de garder, tu vois, juste le milieu, mais pas des extrêmes comme ça. Et donc, ça m'a fait rire. Et ouais, les gens, parfois, se rendent pas compte. Mais là, bon, là, les gens dans la salle, ils étaient en face de moi. Et ça, c'est aussi très, 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 très violent. Et heureusement, pire que ça, sur scène, j'ai jamais eu. Enfin, pire que ça, tu vas me dire, il y a quoi?
Il y a la mort.
Ouais, il te jette une chaise ou il essaie de tirer dessus. Je jouais, il y a un gars qui a sorti un flingue. Je n'aime pas ce que tu dis, il a tiré. Mais voilà. Sinon,
ça, c'est déjà arrivé, ça, dans les comédie clubs aux États-Unis et tout. Dès que tu balances une vanne, dès que tu vannes un peu fort dans certains endroits des États-Unis, tu vois, dès que tu vas balancer une vanne un petit peu trop osée sur quelqu'un du public, le mec, s'il le prend vraiment mal, il est capable de sortir son calibre. Hein.
Hey, mais tu vas pas jouer au Texas en même temps, tu vois, tu sais ce que tu fais. Non,
ben malheureusement, avec les États-Unis, alors autant le Texas, c'est le premier auquel j'aurais pensé. T'es à l'abri nulle part. Hein, tu sais, des rednecks, tu vois, ils appellent ça comme ça, tu vois, genre les gars un peu, enfin, je sais pas, des campagnards.
Ouais, aussi, les
rednecks, je sais pas comment on pourrait traduire. Les pecnos, quoi, des pecnos.
Voilà, les Hauts-de-France des États-Unis, mais à la campagne avec des armes.
Je peux pas te laisser dire ça. Les gens du Hauts-de-France. Ah non, mais le public des Hauts-de-France, c'est vraiment un des meilleurs. Moi, j'ai joué là-bas à Lille, j'ai joué à Achicourt, à côté d'Arras et tout. Vraiment, j'ai joué à Valenciennes aussi. Franchement, c'est génial, quoi. C'est des gens super.
Tu vois, maintenant que je parle de ça, je pense à un truc. J'ai joué à Lille, j'ai joué au Spotlight. Et, Et j'ai eu le cas, et c'était vraiment très chouette. Toute la soirée, tout était bien. Et j'y ai joué quand j'avais un peu plus de bouteilles. Mais au tout début, que je démarrais, je me suis retrouvé dans un festival de rire. Je crois que c'est encore un peu les Hauts-de-France, ça aussi.
Oui, oui.
Et on arrive, et la ville est d'une... Mais déprimante, mais ceinture noire de dépression. Tu vois, vraiment, la ville, elle est horrible. Et on
mais
est là.
Non.
Et...
Oh, mais...
Si, si, si. Les gars, il faut appeler un chien, hein. C'est pas architecturellement parlant. C'est pas ce que tu retiens de la France. Hein. Et le truc se faisait dans la salle des fêtes de la ville. Le jury, c'était un politicien et son adjointe, 94 et 78 ans, tu vois, et un présentateur de la région et 10 humoristes comme moi qui débutent. Et le public, au fait, parce qu'ils ont fait ça en plein après-midi, le public, c'est juste les 10 parents des personnes qui ont accompagné leur gosse humoriste. Il n'y avait personne, tu vois. On était 20 dans la salle. Et moi, j'étais là et je me dis, c'est la première fois que je joue dans le nord de la France. On a été manger avant dans un centre commercial au Flunch. On a vu des trucs. Tu vois, il y a des familles à table où ils étaient 22, quoi. Et tu sais, je dis à mon pote, ils sont 22. Ça veut dire que chaque jour, il y a un anniversaire dans cette famille, tu vois. Tu sens que c'est différent de chez nous. Et la ville, l'ambiance, enfin, tout, l'atmosphère. Et puis moi, j'arrive, je monte sur scène.
Je vais tellement devoir piper le nom de la ville à cause de toi.
Et il n'y a rien de méchant. Et je débutais, tu vois. Et donc, je ne me rendais pas compte. Et je ne savais pas que ce genre de choses-là, tu ne pouvais pas le faire dès le début. Maintenant, peut-être avec le recul, je ne le ferai pas ou pas comme ça. Et je monte. Et ma première phrase, c'est « Hé, je suis super content de venir jouer dans le nord de la France parce que je suis un grand fan de Confession Intime, en vérité. Et vous rencontrez, ça me fait chaud au cœur. » Et là, il y a eu un de ces blancs. Et j'ai continué 10 minutes en ayant perdu tout le public, tout l'affect du public. Après, j'ai compris ce genre de phrase-là. D'abord, je l'ai fait rire et je le dirai après pour terminer.
C'est ça, c'est ça. Il faut d'abord montrer patte blanche, tu vois, d'abord.
Non, c'est clair, c'est clair. Donc voilà, comme ça, écoute, je t'ai un peu raconté tous mes bides et là, tu sais un peu tout. Pour le reste, heureusement, ça va.
Non, mais ça va, mais c'est bien. Et puis, franchement, t'as vécu du lourd. J'en profite d'ailleurs pour saluer Alex Vizorek qui était dans l'épisode 99 du podcast. C'est un vrai amour et je comprends tout à fait. Tu vois, c'est une crème ce mec et vraiment, je comprends tout à fait qu'il t'ait dit « tu peux pas dire ça et tout machin » parce qu'il s'inquiétait pour justement la réaction du public parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de bouteilles. Et du coup, il savait que tu partais au casse-pipe étant donné qu'il y avait les personnes…
Ouais,
voilà,
il y avait
la personne en question dans la salle et le but pour lequel cette soirée était organisée, c'était l'objet que tu vas naître en fait, tu vois. Donc
bienveillance, quoi. Il m'a sauvé la vie et il s'est sauvé la vie à lui aussi parce que jouer derrière moi après en ayant dit ça, laisse tomber quoi.
Ça dépend. Même si ça se passe mal de A à Z, je pense qu'ils en voudront pas à l'artiste. Je pense pas.
Mais imagine les 800 personnes qui sont dans la salle.
Oui.
Ils savent que Justine Hénin est la marraine de l'événement. Il n'y a que moi qui ne sais pas.
Oui.
Tu vois, imagine, je fais ma vanne. Justine Hénin, elle n'a pas d'humour. Elle se lève, elle se barre en pleurant.
Ah oui.
Imagine le malaise après et Alex doit passer derrière.
Ouais,
les gens
vont
se dire, mais enfin, comment Alex a pu choisir un type comme lui? C'est un monstre. Et tu vois, et donc quelque part, bon, il a vraiment bien fait, quoi.
Non, mais totalement, totalement. Sa bienveillance, elle est connue. Et franchement, ça fait plaisir de voir qu'il t'a aidé dans ce cas-là. Et finalement, bon, ça s'est quand même bien passé, on va dire, par rapport à ce que ça aurait dû être si tu n'avais pas été prévenu, tu vois.
Non, c'est clair, c'est clair. Dans l'ensemble, ça a été.
Ah, en tout cas, pour ta deuxième anecdote, j'avoue que autant jouer devant un public qui ne rit pas, prendre un bide à l'ancienne, ça déjà, ça fait mal, très très mal. Mais alors quand en plus le public est hostile et qui veut te buter... J'avoue qu'on a franchi un step quand même. Hein. Il y a vraiment quelque chose de magique là-dedans.
Ah mon Dieu, je souhaite ça à personne, quoi. Même mon pire ennemi, tu vois.
la troisième anecdote, oui, c'est vrai que cette erreur-là, tu n'es pas le seul à l'avoir faite. Beaucoup de personnes l'ont faite, c'est-à-dire tu arrives sur scène et tu vannes le public directement sans même avoir eu leur approbation un petit peu sur quelques vannes avant. Bon, bah, ça va lancer un petit froid et une petite réticence à vouloir rire à tes blagues. Tu vois, donc c'est normal.
Jamais faire ça. C'est comme quand tu vas au resto, j'ai retenu, tu vas au resto, tu peux faire chier le serveur si tu veux, le chef si tu veux, mais toujours après avoir mangé.
Ah oui, 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 oui.
Jamais avant. Et voilà.
Eh bien, écoute, merci beaucoup pour toutes ces anecdotes.
Et, je t'en prie, Sofiane, c'était bien cool.
Ah ben franchement, ça m'a vraiment fait plaisir. Et donc, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux ?
Bah écoute, j'ai une page Facebook comme tout le monde. Moi, je suis pas hyper actif, hein. Je suis un vieux, donc c'est Funky Fab la page. Et, voilà, et sur Insta, c'est le Funky Fab. N'hésitez pas.
Ouais, bah avec grand plaisir. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, Sofiane Etahi, E2TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous à tous, même à toi là-bas.